Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission de la rentrée, Laure Agnès Karadec. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes alors très rapidement adjointe au maire de Marseille, en charge de l'urbanisme, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, présidente d'Euroméditerranée, présidente également de la GAM, et j'en passe. Et j'ai oublié de préciser, le tout sous l'étiquette Les Républicains. Laure Agnès Karadec, une tradition dans cette émission. C'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Pour le poète qui a toujours raison, la femme est l'avenir de l'homme. Mais l'ennui, c'est qu'il ne précise pas si la femme est aussi l'avenir de l'homme politique. Plutôt que d'inviter Hillary Clinton, cela aurait été beaucoup trop convenu, nous avons choisi d'ouvrir cette nouvelle saison de la Grande Tchatch en recevant la Karadec. Chers auditeurs, ne faites pas des yeux de gobi. Je vous confirme, nous recevons aujourd'hui la Karadec, Laure Agnès Karadec, mon sang. Vous souffrez, Laure Agnès Karadec, comme le disent les communicants, d'un léger déficit de notoriété. Mais rien de mieux qu'un bon plan média dans l'émission politique du Ravi sur Radio Grenouille pour pulvériser tous les indices de visibilité et de popularité. Cela dit, remarquons tout de suite que votre relative discrétion est inversement proportionnelle au nombre de casquettes que vous trustez alors que vous n'avez pas encore soufflé votre 50e bougie. Vous êtes en effet ce jour à la fois, je prends mon souffle, conseillère à la métropole Aix-Marseille-Provence, conseillère du département des Bouches-du-Rhône, vice-présidente au conseil de territoire Marseille-Provence, adjointe au maire de la ville de Marseille, présidente de l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, présidente du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Bouches-du-Rhône. Et ce n'est pas tout, car vous êtes surtout, depuis l'an dernier, la première femme à présider l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Oui, Euromed, le fameux programme de rénovation urbaine marseillais, le plus important d'Europe, avec ses 7 milliards d'euros d'investissements publics et privés. On parle désormais de vous comme l'une des étoiles montantes de la droite marseillaise. Car personne n'est parfait. Votre cœur bat à droite depuis vos premiers pas en politique. Au centre droit, pour être précis. Lorsque vous étiez à la fac de droit à Aix, vous avez rejoint le Rassemblement des jeunes libéraux. Natif des beaux quartiers, au sud de Marseille, à 26 ans, vous obtenez un premier mandat comme conseillère d'arrondissement. À 32 ans, Jean-Claude Gaudin vous nomme adjoint aux espaces verts, le temps de mûrir et de décrocher le tour suivant une délégation à l'urbanisme. Une fois n'est pas coutume, vos responsabilités politiques renvoient à de véritables compétences professionnelles. Vous êtes titulaire d'un DESS de droit de l'urbanisme et d'aménagement du territoire. À Aix, vous avez travaillé dans un cabinet d'architectes et à Salon de Provence au service de la prospective urbaine. Technicienne, donc, militant de la cause métropolitaine, vous n'hésitez pas pour autant à plonger les deux mains dans le mécano politique. Membre de la garde rapprochée de Gaudin, vous avez présidé le groupe UMP de feu la communauté urbaine MPM. Vous auriez aimé aussi être tête de liste des Républicains au régional dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est Muselier qui a été choisi. Bref, nous ne savons pas si la Karadec est l'avenir de la droite marseillaise. Nous ignorons si, comme Marcel Leclerc, votre grand-père qui fut président de l'OM, vous plongerez dans le vieux port en cas de victoire. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra compter avec vous.
Laure Agnès Karadec, un commentaire sur ce portrait à la sauce ravie, je tiens à le préciser.
Bah, déjà merci parce que il est agréable à écouter, je m'y retrouve, donc voilà, il n'est pas complètement étranger à ma personnalité.
La Karadec et l'avenir, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, mais les ambitions sont là quand même.
Bah, on est obligé d'avoir quand même un minimum d'ambition, mais ne serait-ce que ambition pour le territoire sur lequel on travaille.
Alors avant d'en arriver à ces ambitions, si elles existent, si elles sont affirmées, voire si elles se confirment, les primaires pour votre parti Les Républicains, c'est le 20 et le 27 novembre 2016, vous êtes sarkozyste, Marseille est assez bien représentée sur les 7 candidats qui se présentent aux primaires. Les primaires, un mot, les 8, c'est qui le 8e?
Monsieur Poisson.
Monsieur Poisson.
Enfin, je ne sais pas qui étaient les septièmes dans votre esprit, les sept premiers, mais...
J'avais échappé celui-là. Donc les primaires,
je comprends.
Un mot sur, sur ces primaires, c'est le pire et le meilleur à la fois?
Bah, c'est un exercice pour lequel notre famille politique n'est pas forcément habituée. Donc voilà, j'espère surtout qu'il n'y aura pas trop de petites phrases assassines, de querelles, et que l'objectif, c'est que nous soyons tous derrière celui qui va sortir des primaires.
Alors, qu'est-ce que vous avez avec Nicolas Sarkozy? Parce que les sondages, alors il faut s'en méfier, mais donnent largement Alain Juppé comme le préféré des Français, semble-t-il. Bon, voilà. en tout cas dans les Bouches-du-Rhône et même en PACA, et l'appareil, les grands élus sont tous derrière Nicolas Sarkozy.
Bon, pas tous déjà, il y en a derrière...
Un grand nombre. Une très grande majorité. Pas
Juppé,
tous, effectivement.
Il y a deux parlementaires derrière Fillon. Enfin, non, on est assez répartis. Mais c'est vrai qu'une grande partie est derrière Sarko. Déjà, je pense qu'il y a l'effet discipline. Il est président de l'UMP, ça paraît... des Républicains. Donc, voilà, il y a l'effet discipline et une grande majorité derrière Nicolas Sarkozy. Et puis, après, il y a aussi le fait que c'est peut-être celui qui en a énormément envie et qui arrive à rassembler le plus derrière lui.
Vous arrivez à vous retrouver, vous qui venez du centre droit, derrière Nicolas Sarkozy qui est plutôt clivant, qui est plutôt très à droite, on va dire.
Oui, mais moi je suis assez constante. Vous savez, j'ai été pour lui la fois dernière, je suis pour lui cette fois-ci. Voilà, je crois que il a l'expérience, il a la volonté. Certes, il est clivant, mais il peut aussi être raisonnable et tirer les enseignements de ses erreurs passées.
Pourtant, on a l'impression qu'il y a une envie de changement qui s'exprime, de ras-le-bol, de défiance vis-à-vis du personnel politique. Nicolas Sarkozy a été président, il a été battu. Comment on répond à cette demande de renouvellement quand on choisit comme champion Nicolas Sarkozy?
Après, dans le renouvellement, celui qui peut paraître peut-être le plus neuf, c'est Bruno Le Maire. Mais je pense que Bruno Le Maire aura toute sa place si un candidat de la droite, voilà, républicaine, gagne. Parce que je pense qu'une fois de plus, il faut dire un candidat. Et quel que soit le candidat, moi, je serai derrière et je me battrai pour qu'il gagne. Et avoir un rassemblement le moment venu pour justement faire de ce mandat présidentiel une vraie réussite. Et je crois que ça sera le seul moyen de renouer avec les Français, c'est-à-dire faire ce à quoi on s'engage.
Alors les primaires du 20 et du 27 novembre 2016, comme je le disais tout à l'heure, c'est le pire et le meilleur. Première question avant de... Vous avez des ancêtres gaulois, Laure Agnès Karadec?
Je suis plutôt du côté menhir, je suis bretonne. Oui, j'ai forcément des ancêtres gaulois, ça, certainement.
Alors, la question de l'immigration, de l'identité, de la laïcité va être au cœur de la campagne électorale et déjà au cœur de cette campagne des primaires. L'affaire du Burkini a déchiré l'opinion et la classe politique. Manuel Valls, Premier ministre, a soutenu l'arrêté des maires qui traquaient un petit peu le Burkini, mais le Conseil d'État leur a donné tort. Sarkozy propose, lui, de légiférer. Quelle est votre position à vous, Laure Agnès Karadec?
Je crois que sur tous ces sujets, il faut beaucoup de sagesse et de recul. Et d'ailleurs, le maire de Marseille n'a pas pris d'arrêté. Et aujourd'hui, il s'en félicite. Je crois qu'on sent un clivage, une tension. Et il faut plutôt apaiser les choses en ayant un discours plutôt objectif. C'est vrai qu'il y a des soucis. C'est vrai que aujourd'hui, de voir tous ces migrants arriver, ça inquiète, ça peut être compréhensible.
Donc on parlera des migrants, juste le cas du Burkini.
Le cas du Burkini, sincèrement, est-ce qu'il vaut mieux être en topless ou en Burkini? C'est vraiment une question qu'on peut se poser, mais je crois qu'en tout, il faut surtout de la discrétion, c'est-à-dire qu'on doit respecter les uns les autres dans l'exercice de sa religion comme dans son mode opératoire et sa façon de s'habiller.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Sarkozy qu'il faut légiférer.
Il faudra peut-être légiférer globalement sur comment on doit se tenir dans l'espace public.
Moi, j'en sais
rien, mais ça va être. Oui, mais je pense que aujourd'hui, il y a une attente sur ce sujet-là, parce qu'il y a des crispations, justement.
Alain Juppé, dans un interview au Monde récent, dit attention à ne pas hystériser le débat politique. Si on continue sur ce registre-là, on va finir par verser dans la guerre civile. Vous avez une réputation de femme politique plutôt posée. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à radicaliser le discours de la droite républicaine à un moment où l'extrême droite pèse dans l'électorat quasiment un quart des suffrages? Est-ce qu'il n'y a pas un danger?
Justement, il ne faut pas courir après le discours du Front National.
Et comment on fait alors pour s'en distinguer ?
Ben, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut un peu de sagesse et avoir un discours très ouvert. Aujourd'hui, on sent qu'il y a certains sujets qui sont tabous. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et moi, je trouve ça regrettable dans ce pays. Parce que dès qu'on dit quelque chose, on se fait taxer soit de raciste, soit d'antisémite, soit... Voilà. Je pense qu'il faut arriver à avoir un discours ouvert et avec une confrontation d'idées, bien entendu. Mais je crois que les Français sont en attente de certaines dispositions et surtout d'un discours qui les rassure. Parce qu'aujourd'hui, l'hystérisation, justement, renforce tous ces clivages et renforce cette impression qu'on a de situation un peu explosive.
Laure-Agnès Karadec, vous êtes sûre que vous soutenez le bon candidat? Parce que l'hystérisation, c'est un peu la marque de fabrique de Nicolas Sarkozy, non?
Non.
Il y a une espèce de surenchère aujourd'hui avec le Front National qui est assez visible.
Je ne pense pas. Je crois qu'il a une réelle volonté de faire en sorte de poser sur la table tous les sujets. Et ça, c'est important.
Alors, juguler l'immigration, tout le monde est plus ou moins d'accord, dans votre camp en tout cas. Là-dessus, la suspension du regroupement familial, c'est déjà le cas dans d'autres pays. Vous êtes également favorable à cette proposition?
Ça, c'est Jean-François Copé qui l'a proposé.
Nicolas Sarkozy l'a reprise.
J'ai récemment voyagé dans les pays d'Europe du Nord.
Au Danemark notamment.
Au Danemark, et on est allé en Suède. Je crois qu'il y a des faits. En Suède, à Malmö, par exemple, ils ont dit on accueille les migrants sans problème. Ils ont eu une vague de migrants, ils ont eu 14 000 migrants dont 60% mineurs. Ils ont instantanément tout refermé en disant mais comment on va gérer ça? Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment poser le débat. La France est évidemment une terre d'accueil, mais dans quelle proportion on peut accueillir les gens correctement?
Aujourd'hui, il y a à peu près 90 000 bénéficiaires du regroupement familial. Vous trouvez que c'est beaucoup trop?
Mais tout ça doit être chiffré, mais pas forcément qu'en fonction du regroupement familial. On a aussi tous les migrants qui arrivent. Est-ce qu'on a des chiffres très précis de combien on doit absorber de personnes par mois? Et est-on en capacité de les absorber? C'est-à-dire, quand je dis les absorber, c'est on a des personnes qui arrivent qui n'ont pas la même culture, qui ne parlent pas le français, comment on arrive à scolariser les enfants? C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'à un moment donné... pour que cette intégration soit une réussite, il faut qu'on puisse donner les moyens de cette réussite. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne donne pas les moyens de cette réussite.
Alors, la maire de Paris va ouvrir un camp humanitaire. Est-ce qu'à Marseille, capitale régionale, on peut imaginer un camp humanitaire pour les migrants, notamment ceux qui viennent d'Italie?
Vous savez, à Marseille, déjà, on fait beaucoup. On fait énormément, ben oui, parce qu'on n'est pas une ville très riche. On a quand même des familles qui vivent avec des moyens qui sont très limités. Et donc, on accueille, il y a la gratuité dans les écoles, notamment pour la cantine. Il y a tout ce qui est fait au niveau du SAMU social, au niveau des hébergements, des unités d'hébergement d'urgence. Et un moment où on n'arrivera pas à financer plus, malgré toute la bonne volonté du monde.
Donc,
on connaît quand même la position du maire de Marseille sur ce sujet-là, sur la solidarité, sur la générosité.
Un camp n'est pas imaginable à Marseille?
Déjà, où et avec quels moyens?
Michel?
Au sujet de politique nationale, avant de venir sur le local, mais ça a mobilisé beaucoup de monde aussi à Marseille et en région. Il y a eu un mouvement social qui a duré, qui s'est éternisé autour de la loi travail qui a été adoptée. Là, on a l'impression aussi, à regarder les propositions qui sont faites dans la primaire des Républicains, que le projet, c'est d'aller quand même assez fort dans des réformes beaucoup plus fort peut-être même que le gouvernement ne l'avait fait avec la loi travail. Est-ce que vous n'avez pas peur là aussi de fracturer un pays qui semble sur les nerfs et très fragilisé au niveau social?
Je pense que ce pays, il est fragilisé parce qu'il est complètement sclérosé par toutes les lois. Et aujourd'hui, il a un réel besoin de réforme. Il faut libérer les choses. Il faut rendre plus de souplesse au marché du travail. Je ne vais pas reprendre les pays du Nord, mais taux de chômage quasi égal à zéro. Par contre, grande souplesse. C'est-à-dire que le gros mot qu'est le licenciement, il peut se faire très facilement. Mais derrière, les gens arrivent à retrouver un travail aussi très facilement. Je pense que cette souplesse, elle est nécessaire. Un chef d'entreprise, aujourd'hui, il Il hésite à recruter parce que lorsqu'il a une baisse d'activité, il sait qu'il ne pourra pas licencier. Et en fait, on n'introduit pas cette souplesse. Après, une entreprise, elle a des pics, elle a des creux et elle doit pouvoir ajuster son personnel en fonction de ses pics et de ses creux. Et aujourd'hui, c'est difficilement possible en France.
Alors, dans le Nord, il y a deux volets dans la flexibilité sociale. Il y a effectivement de la souplesse au niveau de la législation du droit du travail, mais il y a aussi un système social qui garantit, qui protège aussi un État-providence assez fort. Oui. On a l'impression là qu'il s'agit surtout de le déconstruire, cet État-providence, dans les intentions.
En France, il n'y a pas d'État-providence assez fort ? Je pense quand même que ceux qui...
Visiblement, le souhait, c'est de remettre en cause cet État-là, parce qu'il est jugé comme étant...
Entravant. Non, mais il y a aussi le fait de regarder ceux qui travaillent. Ils ne doivent pas moins bien vivre que ceux qui ne travaillent pas non plus.
Les micro-contrats.
Il y a un moment où il faut tout mettre à plat.
Les micro-contrats, enfin les contrats à durée très déterminés, très très courts, comme il y en a en Grande-Bretagne notamment, ça c'est la solution d'avenir. En même temps, quand on a ça, comment on fait après pour se loger? Comment on fait pour avoir un compte en banque, tout simplement, avoir un emprunt?
Je ne dis pas que les micro-contrats sont la solution. Je dis qu'on doit faire des réformes vraiment structurelles pour permettre une souplesse. Aujourd'hui, le système complètement rigide est un frein au développement. Voilà, et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à faire les réformes essentielles en matière de droit du travail, en matière surtout qui favorise l'initiative privée. C'est-à-dire que dans ce pays, on a trop tendance à tout attendre du pouvoir public. Il faut aussi laisser faire le privé qui est quand même raisonnable. Un chef d'entreprise, il sait ce qu'il fait, il est attaché à ses salariés, il les connaît et il ne faut pas penser qu'il va les jeter comme un mauvais Kleenex. Non. Mais par contre, après, pour la pérennité de l'entreprise, à un moment donné, quand les chiffres d'affaires diminuent, il faut aussi pouvoir licencier, ne serait-ce que pour préserver le reste des emplois.
Dans cette entreprise idéale, entre guillemets, le syndicalisme, c'est une entrave ? Tel qu'on le vit aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, le syndicalisme, c'est plutôt une entrave ?
Le syndicalisme, pour faire de l'obstruction, je pense que c'est une entrave. Et il n'y a qu'à regarder le fonctionnement des syndicats dans d'autres pays. Je pense que ça
fonctionne. Vous pensez à l'EFO, à l'Amérique, non ?
Non, je ne pense pas à ça. Je pense que globalement...
Il y a du bon syndicalisme et du mauvais syndicalisme ?
Non, mais non. Je pense que globalement, à l'échelle nationale, nos syndicats peuvent se remettre en cause. Et regarder les modèles qui sont dans d'autres pays, comment ça fonctionne, comment le dialogue fonctionne en vue d'une construction. Aujourd'hui, on est dans l'affrontement systématique et j'ai l'impression qu'on ne construit pas ensemble.
Michel ?
Alors, dernière question de politique générale avant de rentrer dans les dossiers locaux. Il y a une crise de désamour entre les électeurs et les élus. Des indices, le vote extrême droite très fort, un taux d'abstention très fort, et on retrouve ça à l'échelle locale, parfois même amplifié. Comment on répond à ça ? On vous présente comme justement... une de ces actrices d'une nouvelle génération en politique, comment on fait pour remettre de la confiance entre les élus et leurs électeurs ?
On est en plein paradoxe, c'est-à-dire que je pense qu'un politique, il est là pour agir et il n'est pas là pour courir après l'actualité du moment ou sa hausse médiatique ou sa baisse médiatique. Je crois qu'il faut de la constance, il faut un discours vrai, il faut avoir le courage aussi de mener les actions pour lesquelles on a été élu. Et je pense qu'il y a eu trop de déceptions au fil du temps qui font que il y a un discrédit de la classe politique et du discours politique.
Le renouvellement, c'est important en politique ?
C'est important. Je pense que les nouvelles générations sont un peu plus confrontées aux réels soucis de la société française et sont peut-être plus à même de réagir et d'intégrer aussi qu'il faut un changement de modèle. Parce que je pense sincèrement qu'il faut un changement de modèle.
Et qu'aujourd'hui, Laure Agnès Karadec, Jean-Claude Gaudin, avec qui vous travaillez, en est à son quatrième mandat, 74 ans. Oui. C'est pas franchement un changement de modèle.
Non, c'est aussi une continuité, mais il fait aussi confiance à des jeunes. On est là derrière lui depuis fort longtemps à être plusieurs. Hein. Martine Vassal a accédé à de grandes responsabilités aux dernières élections départementales. Il y a des parlementaires qui font un travail remarquable, que ce soit Valérie Boyer qui elle aussi fait partie de la jeune génération. Bruno Gilles qui est là avec nous. Yves Mouraine qui est attendu sur les élections législatives à venir. Et même Renaud Muselier, malgré l'article qu'il a fait, un moment donné, on doit tous être solidaires. Et si dans notre famille politique on se déchire, on perdra tout.
Dernière question, très très rapidement, sur le renvoi de l'ex-chef de l'État, votre champion, Nicolas Sarkozy, en correctionnel. On parle, notamment Brice Hortefeux, parle de complot, de manœuvres politiques, le rebond judiciaire de l'affaire Big Malion, finalement. Vous pensez également que c'est un complot, qu'on en veut à...
On ne peut pas nier qu'il y a un acharnement.
Michel.
Bon. On vient peut-être pour faire le lien avec les dossiers locaux. Il y a une chose sur laquelle c'était dit dans le portrait de façon un peu satirique, mais vous n'innovez pas vraiment, c'est sur le cumul des mandats. Vous avez quand même énormément de mandats, de fonctions. C'est pas trop pour une seule personne en une seule journée.
24 heures la journée. Hein.
Ouais,
sachant qu'il y a le temps de sommeil.
Mais je sais, elle est pour tout le monde pareil.
Etc.
Après, l'avantage, et je voulais rendre une partie de mes délégations, parce que je ne peux pas non plus prendre des charges supplémentaires sans en rendre. Donc j'en ai rendu une partie à mon collègue Robert Assante. Si vous regardez l'intitulé de toutes ces délégations, elles ont un lien. Elles ont toutes trait à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, à comment on réfléchit à la ville de demain, comment on la développe en touchant à tous les sujets. Et l'avantage d'être sur toutes ces casquettes-là, c'est que tout le monde travaille en transversalité. Et c'est quand même aussi l'objectif de ce mode de faire un peu nouveau. C'est-à-dire que moi, j'invite tous mes collègues régulièrement à des plateaux de travail pour faire en sorte qu'on partage tous la même information et qu'on essaye de défendre les dossiers dans le même, se mettre d'accord déjà et les défendre dans le même sens avec chacun qui y mette une énergie et un morceau de sa délégation à la réussite de ses projets.
Alors vous êtes présidente d'Euroméditerranée. On vient de fêter les 20 ans d'Euroméditerranée. On engage la deuxième phase, phase plutôt compliquée d'après ce que dit tout le monde.
Tout à fait.
Un bilan de la première phase, elle a changé visuellement la ville.
L'opération Euroméditerranée a complètement changé l'image de Marseille puisqu'on a eu...
Pour les auditeurs, c'est le plus grand chantier urbain d'Europe.
Hein. Oui, tout à fait. Donc ça part du Vieux-Port, ça englobe la gare et ça va... Pour la tranche 1, jusqu'à, grosso modo, la tour CMA-CGM. Et pour la tranche 2, donc, on va jusqu'à Gèze. Et on est dans la tranche 2, dans une opération beaucoup plus complexe, que je détaillerai peut-être après. Mais en tout cas, Euromed 1 a complètement changé l'image de Marseille, a fait en sorte de repositionner Marseille sur le bassin méditerranéen comme une des grandes métropoles, avec un centre d'affaires qui a été développé, avec une restructuration aéroportuaire et un linéaire littoral complètement aménagé avec évidemment la construction d'un morceau de ville à l'échelle de ces hectares entiers dans toutes ses composantes, que ce soit la culture, que ce soit le social, que ce soit les équipements publics. Et on peut voir aujourd'hui qu'on va avoir un vrai campus urbain autour de la Porte d'Aix avec l'autoroute qui a reculé. En termes de construction de la ville, on est vraiment dans une immense plus-value.
Alors, on a vu, vous avez fait un peu le bilan du premier. Quels vont être vos principaux défis pour cet Euromed 2, mais vraiment un ou deux projets emblématiques?
Un, sur Euromed 2, on a une sociologie qui est complètement différente, puisqu'on arrive vraiment sur le quartier des Crottes, qui est difficile. On veut réaliser une écocité, c'est-à-dire remarquable en termes de développement durable, avec un développement d'une ville méditerranéenne durable, l'îlot Smart Sail qui sort de terre, l'îlot XXL...
Alors c'est quoi une ville méditerranéenne durable? Parce que bon, pour l'instant c'est des mots, mais concrètement ça va être quoi?
Alors concrètement, c'est-à-dire que le bâti doit prendre en compte notre climat, c'est-à-dire faire attention aux orientations, aux expositions solaires, développer du développement durable. On a tous les bâtiments qui sont reliés à une boucle de thalassothermie pour éviter les énergies carbonées et faire en sorte aussi qu'on intègre toutes les innovations en matière de numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir de l'autopartage, on a des parkings foisonnés, c'est-à-dire que vous arrivez sur votre smartphone, vous savez où est-ce que vous avez une place de libre. Elles sont utilisées la journée par les salariés, la nuit par les résidents et avec de la e-conciergerie. Enfin voilà, je peux développer longtemps, mais je pense que...
Alors ce qui a très bien marché, ce qui a plutôt bien marché, même si on reviendra là-dessus, c'est la Joliette par exemple, un quartier d'affaires avec des résidences, même si il y a quelques défauts, on en parlera tout à l'heure. Vous avez évoqué tout à l'heure les quartiers paupérisés, notamment celui des Crottes, oui. Il y a le marché aux puces également.
Exactement.
Qu'est-ce qui
pose aujourd'hui, problème. On est en train de réfléchir à l'échelle d'un macro lot qui s'appelle XXL et dont le nouveau nom sera dévoilé bientôt. C'est comment on peut requalifier ces espaces dégradés qui sont quand même une réelle plus-value parce que le marché aux puces, avec notamment la halle alimentaire, répond à un besoin social des populations environnantes, mais dans un état aujourd'hui dégradé en termes de sécurité, en termes de parking, en termes d'accessibilité. Donc comment on peut redynamiser ces lieux-là en gardant tous leurs atouts, que ce soit la halle des, enfin, les antiquaires également, et faire en sorte qu'on ait une requalification urbaine de ce noyau villageois des Crottes avec un développement qui amène une réelle plus-value économique, parce que l'objectif d'Euroméditerranée, c'est aussi de développer de l'économie et de faire en sorte de créer des emplois pour la population marseillaise.
Un franc investi, deux francs.
Voilà, un euro investi, 3 euros d'argent, un euro public investi, 3 euros d'argent privé généré. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que le privé vienne aider le développement de cette ville et que l'impulseur soit l'argent public.
Alors la concertation avec les habitants, c'est ça le problème ?
Ben, c'est pas un problème. Écoutez, moi, je sors. Voilà, vous êtes ici.
Quand vous avez été élu, vous avez dit qu'il fallait rentrer en concertation.
Mais tout à fait.
Bâtir avec les gens,
exactement,
etc.
Exactement. Et ici, on est à la Belle de Mai et on mène une opération qui est assez emblématique en termes de méthode de consultation qui s'appelle Quartier Libre. Alors, on est à la frange d'Euroméditerranée. On est vraiment sur une volonté de la ville de réfléchir à l'échelle des casernes de la Belle de Mai sur un périmètre de 140 hectares et on a mené une consultation de la population dès 2014 pour connaître leurs attentes et définir ensemble un cahier des charges de consultation. C'est ce qui a été fait. Et donc, nous venons de présenter l'équipe lauréate et son projet. Et ça a été très bien accueilli. Nous avons fait l'opération ici à la friche de la Belle de Mai la semaine dernière où il y avait 300 personnes qui n'ont pas été surprises des choses présentées puisqu'on les avait construites ensemble avant. Et nous allons encore les construire après.
Donc, vous allez calquer cette méthode pour le marché aux puces et pour
exactement.
Les...
Exactement. L'objectif, c'est pas de construire la ville en dehors des gens, c'est de construire avec eux.
Alors, il y a quand même deux, trois petits soucis, en particulier sur la question justement de comment les populations, les nouveaux arrivants et les populations présentes
vivent ensemble.
Et alors, il y a un mot savant, un peu technique, ça s'appelle la gentrification, mais en gros, pour faire simple, c'est le remplacement d'une classe sociale par une autre, et c'est souvent le cas dans les programmes d'aménagement urbain.
En général, c'est une classe sociale paupérisée qui est remplacée par une classe sociale.
Je ne peux pas vous laisser dire ça, mais je développerai.
On a vu rue de la République des gens partir et d'autres arriver. On a vu à la Joliette effectivement beaucoup de cadres arriver. Comment la Belle de Mai, c'est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Hein. Les Crottes, vous l'avez dit vous-même, on est face à une ville très dégradée et à des gens très en difficulté. Comment cette population-là va bénéficier de ces aménagements ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on les invite finalement à aller plus loin, ailleurs?
Non. Est-ce que vous avez vu, en 20 ans de mandat de Jean-Claude Gaudin, des déportations massives? Parce qu'à vous écouter, c'est un peu ça. Rue de la République, personne n'est resté sur le carreau. Personne, pas un. Tout le monde a été relogé.
Enfin, le conseil général à l'époque dirigé par les socialistes a beaucoup fait pour que personne ne reste sur le carreau, justement.
Ben non, c'est une opération qui a été menée conjointement Ville de Marseille et Euroméditerranée. Et tous les cas ont été étudiés un par un. C'est-à-dire ceux qui voulaient être relogés sur place, enfin ou dans les environs, ont été relogés sur place. Ceux qui voulaient aller dans un autre quartier ont eu le choix d'aller dans un autre quartier. Et en fait, il n'y a pas de déplacement de population. Il y a la population qui est sur place, avec laquelle nous travaillons à du renouvellement urbain, c'est-à-dire à améliorer leurs conditions de vie. Et il y a un apport de population au travers des constructions neuves. C'est juste ce qu'on appelle de la mixité.
La Grande Chatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Le Ravi Radio Grenouille avec nous aujourd'hui, Laure Agnès Karadec, Michel Guéraud.
Dans Euromed 1, ce qu'on a vu aussi, c'est un programme immobilier puissant. On a vu un quartier d'affaires surgir. On a vu des équipements culturels assez, assez denses. Mais par contre, au niveau de l'offre urbanistique classique, à savoir les écoles, les infrastructures, les parcs, ça reste quand même assez à minima tout ça. Alors vous allez me dire le contraire ?
Bah, je vais vous dire quand même que si vous regardez la situation en 95, on avait l'autoroute qui arrivait Porte d'Aix, on avait l'autoroute et des passerelles qui allaient de la Major au J1, l'autoroute qui passait dessous, la Major était un rond-point à voiture. Aujourd'hui, il y a quand même une esplanade, l'esplanade haute et l'esplanade basse, le jardin Vaudoyer qui a un grand succès parce qu'il y a toujours du monde en face de la mairie de secteur, la Porte d'Aix va devenir un grand parc urbain, les travaux sont en cours. Et après, l'objectif, c'est de faire le lien entre les quartiers nord et les quartiers sud via un grand parc à la place de la gare du Canet. Donc là, on aura un parc urbain de 12 hectares qui pourra justement faire le lien entre ces quartiers. Parce qu'aujourd'hui, tout est fractionné. Et fractionné par des friches, par un manque de transport en commun. Aujourd'hui, tout ça s'est développé. Et sincèrement, je crois qu'on a tendance à vite oublier ce que c'était une fois que les choses sont réalisées. Mais je peux vous donner quelques photos et quelques diapos de l'époque.
À partir de 19h, pour ceux qui habitent à la Joliette, qui ont investi et qui ont décidé d'habiter à la Joliette, à partir de 19h, il n'y a pas une vie à la Joliette. Il y a des bureaux la journée, le soir, il n'y a rien.
Bah, le soir, il y a quand même tout ce qui est voûte de la Major, il y a quand même
c'est
des
magasins.
Ah ben non, le soir, il y a des restaurants. 19h, enfin, ouais. Je sais pas, moi, quand j'emprunte le boulevard Méditerranée, Euroméditerranée, ce qu'on appelle boulevard du littoral, je vois des voitures partout, des jeunes partout, des gens qui vont au resto, qui vont au hall des voûtes de la Major. Enfin, il y a quand même de la vie et de l'animation. Il y a des équipements culturels qui offrent des animations en soirée. Voilà, mais tout ça doit se faire quand même. On ne peut pas faire un changement radical. Tout ça s'inscrit dans le temps aussi. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, il y a et on nous reproche que ça ne soit pas assez bien.
Marseille a 2600 ans.
Elle
n'a pas commencé en 1995.
Exactement.
Mais en même temps, on peut espérer rattraper aussi les autres.
Non, mais il faut réinscrire tout ça dans l'échelle temps.
Est-ce que vous aurez les moyens aussi de vos ambitions, c'est-à-dire qu'il y a les belles images d'architectes sur les projets qui vont se réaliser, par exemple le parc urbain effectivement autour de la Porte d'Aix. Si on prend une réalisation par exemple importante hein, des mandats Gaudin, c'est le parc du 26e centenaire. Quand on s'y balade, on a l'impression qu'il est plus ou moins à l'abandon quelques années après. Alors je sais qu'il y a des travaux en cours, mais ils durent. Quand on connaît la sociologie, les difficultés au niveau du quartier de la Porte d'Aix, est-ce qu'il n'y a pas un risque que passé 19h, 20h, le parc soit au bout de quelques mois très dégradé et assez infréquentable. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? C'est-à-dire de faire en sorte que les belles images et les intentions soient finalement, se traduisent concrètement par une ville à vivre pour ces cadres que vous souhaitez faire venir dans ces quartiers?
Mais bien sûr, mais ce qui me surprend toujours, c'est le côté toujours très négatif qui est mis en avant. Moi, quand je vais au parc du 26e centenaire, sincèrement, j'y vois des familles qui se promènent, je vois des boulistes qui jouent aux boules, je vois des gens qui vont à la buvette. Je vois pas le tableau noir que vous décrivez. Après, aux Marseillais à respecter les espaces qu'on leur offre aussi.
Il n'y a plus d'eau dans les jardins, la végétation se meurt.
Mais non, la végétation ne se meurt pas. Ouais. Alors, il n'y a plus
on
d'eau.
On n'a pas dû aller au même parc.
Mais si. Mais il n'y a plus d'eau, pourquoi? Parce que tout est systématiquement dégradé. Et c'est là où je me dis que sincèrement, les Marseillais devraient être reconnaissants des efforts faits par la municipalité et respecter les lieux qu'on leur offre.
C'est un peu court, vous dites que si à Marseille, les espaces publics sont dégradés, c'est la faute aux Marseillais, alors qu'à Lyon, à Bordeaux, ça fonctionne, ça tourne.
Oui, d'accord. Oui. Je dis qu'il y a un très mauvais respect de l'espace public par les usagers, mais pas les sauvageons, hein. Des gens qui, en reculant, cassent le potelet, qui jettent la canette. Après, voilà, c'est, je veux dire, cet incivisme au quotidien, elle est terrible. Pour la propreté, pareil, moi je suis désolée, je passe sur la Canebière tous les matins, c'est propre.
Voilà. Alors, la ville de demain ou d'après-demain, enfin en tout cas demain, c'est 50 000, vous attendez 50 000 habitants de plus. À l'horizon 2030, un des gros problèmes de cette ville, c'est les transports, énormément de retard. Mm-hmm. On parle depuis quelques jours d'une nouvelle ligne, mais du côté sud, est-ce que c'est la bonne décision? Parce que le nord de la ville va être toujours aussi engorgé.
On va livrer quand même l'année prochaine le métro Capitaine Jazz. Voilà, c'est pas négligeable. Ce sont des infrastructures très lourdes et très coûteuses, avec un pôle multimodal, c'est-à-dire un parking relais de 600 places, avec la possibilité de faire le lien avec le TER, puisqu'on a le TER sur place. Donc je trouve que des efforts sont faits. Et la ligne structurante et la volonté municipale, c'est de développer la ligne nord-sud. Voilà, que ça soit vers les hôpitaux sud, vers Saint-Loup ou vers le nord, que ce soit l'hôpital nord ou que ce soit le lycée nord. Donc ça, c'est inscrit. Après, rien n'empêche d'envisager aussi une troisième ligne, mais qui se fera dans le temps. Vous savez très bien que lorsqu'on inscrit quelque chose, il faut faire les études, il faut faire les marchés. Aujourd'hui,
on n'a pas pris trop de retard, c'est le quatrième mandat de Jean-Claude Gaudin.
Bien sûr,
et aux dernières municipales, il s'étonnait Marseille a pris du retard.
Non, ça a été une de ses priorités. C'est lui qui a développé le tramway. Ben oui, au deuxième mandat de Jean-Claude Gaudin, qui a développé le métro.
Tramway, c'était plutôt pour une requalification de quartier. Ce n'est pas quelque chose qui désengorge, puisqu'il y a un métro en dessous.
Mais quand on va à la fourragère, ça désengorge. Voilà. Non, pas du tout. Et quand on veut poursuivre le tramway jusqu'aux hôpitaux sud, c'est quand même une volonté de répondre aux habitants de ces quartiers sud.
Michel.
Autre dossier concret pour essayer d'intéresser nos auditeurs. La question des zones commerciales. Alors sur Euroméditerranée, il y a eu les terrasses du port, par exemple, un équipement. Est-ce qu'il n'y a pas... Vous êtes peut-être pas un peu trop, vous, les aménageurs, et vous, responsables de cette politique-là, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop gourmand? Parce que les terrasses du port, les voûtes maintenant, des magasins là aussi, et toujours une rue de la République qui peine à séduire beaucoup de fonds de commerce, et par ailleurs, un centre-ville et un commerce dans le centre-ville qui tire la langue, hein, à plein d'endroits. Est-ce que là, en voulant faire du nouveau, il n'y a pas un risque de pas regarder dans le rétroviseur et de laisser des gens sur le carreau au passage?
Alors c'est toute la complexité. La volonté, c'était d'élargir le centre-ville. C'est-à-dire que le centre-ville ira désormais du stade Vélodrome jusqu'aux terrasses du port. Avec une réelle volonté de requalifier ce qu'on appelle le centre-ville classique, nous allons engager les travaux de requalification de la rue Paradis. La rue de Rome vient d'être livrée avec le tramway. Une réelle volonté aussi de requalifier le cours Lyoto. Ensuite, il faut que les commerçants arrivent à se fédérer en apportant aussi une offre complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les rideaux ferment des fois à 18h45, alors qu'il y a encore du monde, que l'été il fait beau, je crois qu'il faut aussi changer la vision qu'on avait du commerce.
En même temps, les commerçants se plaignent aussi avec les terrasses du port, ou disent « ça ne sert à rien qu'on soit ouvert puisque tout le monde est là-bas ».
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aime aller dans le centre-ville. Voilà, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais il faut aussi qu'ils combattent un phénomène qui est national et international, c'est le e-commerce. Et comment on arrive à combattre ça sans offrir une offre un peu alternative, un peu plus attrayante, pour faire en sorte que les gens viennent dans le centre-ville?
Alors, on parlait tout à l'heure des cadres que la ville espérait avoir. Comment on fait avec un centre-ville qui est paupérisé et qu'on n'arrive pas, notamment avec la Canebière, qu'on n'arrive pas à réhabiliter?
Alors, la Canebière, tout est enclenché pour que ce soit une réussite. C'est-à-dire, bon, le tramway y passe, la requalification y a été faite, les travaux de l'hôtel des Feuillants ont démarré. On en est au stade du permis pour le complexe cinématographique en haut de la Canebière. On a le gymnase qui fonctionne bien. On a une maire de secteur, Sabine Bernasconi, qui a une réelle volonté de faire de la Canebière l'axe visible de la ville. À partir du mois de janvier, on aura les dimanches de la Canebière. Elle va installer sa mairie au milieu de la Canebière avec une façade sur rue importante parce qu'elle veut y mettre de la culture, des expositions, des animations
dans les anciens
régulières,
locaux du conseil
dans
régional.
Les anciens locaux du conseil régional qui ne fonctionnaient pas, qui n'apportaient pas une plus-value à cette artère-là. Bon, ben c'est toujours pareil, hein, tout ça met du temps. On a eu des procédures de recours, on a eu voilà, maintenant les travaux commencent.
En même temps, c'est une des spécificités de Marseille d'avoir, par rapport aux autres grandes villes, un centre-ville paupérisé, alors que dans les autres grandes villes, le centre-ville est plutôt riche.
C'est bien pour ça qu'on a une très large marge de manœuvre, de performance, et nous allons nous y employer, enfin nous y employons au quotidien,
et comment
en
faire
y investissant
avec,
beaucoup.
Avec deux quartiers qui enserrent en fer à cheval, deux quartiers extrêmement pauvres, Noailles et Belzunce, qui influent directement sur l'avenir de cette Canebière. Parce que vous pouvez mettre tous les outils que vous voulez, y compris culturels. Si vous avez deux quartiers très pauvres, ça ne marchera pas.
Non, mais aujourd'hui, Noailles est en plein renouveau, hein, en termes d'attractivité, avec l'Empereur, avec le Petit Saint-Louis, avec les épiceries fines qui sont rue d'Aubagne.
Voilà, l'Empereur, c'est pas lui qui, c'est un magasin qui vend des casseroles, c'est pas lui qui va renouveler la vie.
C'est un des premiers, mais c'est un des premiers magasins visités par les touristes. Donc, quand même, c'est une marque attractive en centre-ville. Et après, je pense que tout se fait aussi par capillarité. C'est-à-dire que sur la Porte d'Aix, quand on arrivera à faire tout ce renouveau urbain, il fera la liaison avec la Canebière, avec l'université, avec les logements étudiants. Mais un quartier se dégrade très très vite. Il n'y avait pas un seul investisseur au nord de la Canebière en 95. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et regagner confiance des investisseurs, faire en sorte que ce tissu urbain puisse se redynamiser, ça met beaucoup de temps. Mais en tout cas, tous les indicateurs sont là.
Je reviens quand même sur la rue de la République, c'est remède 1, d'accord, mais oui. Ça reste un peu l'Union soviétique avec les façades en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il y a des magasins, mais derrière il y a un bail qui est toujours fermé. Est-ce qu'on peut à la fois projeter sur Romède 2, tenir tous les bouts et ne pas lâcher les enjeux de cette rue de la République qui est le serpent de mer de l'urbanisme marseillais depuis qu'elle a été créée quasiment, hein.
Ben, aujourd'hui, il ne faut rien lâcher. Voilà, les choses sont très claires. Tout est fragile à Marseille. Rien n'est réellement simple. Vous avez parlé de Lyon tout à l'heure, mais Lyon a un tissu industriel qui est incomparable par rapport au nôtre. Lyon a un pouvoir d'achat moyen de ses ménages qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc ici, il faut toujours avoir la volonté de tirer cette ville vers le haut. Sinon, dès que vous avez fait un pas en avant, vous en faites deux en arrière.
Est-ce qu'il y a des leviers encore à actionner?
Il y a des leviers vis-à-vis des propriétaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours tout attendre de la puissance publique. Aujourd'hui, on a un fonds d'investissement qui est propriétaire du milieu de la rue. Je peux vous dire qu'on ne le lâche pas, qu'on l'accompagne et qu'on veut faire en sorte que cette restauration qui, au milieu, n'a pas eu les mêmes effets qu'au début de la rue, puisse se faire. Alors, je pense qu'avec l'hôtel NH, dont les travaux sont en cours à l'angle du boulevard des Dames, on aura là un nouveau pôle d'attractivité qui pourra faire en sorte que le reste puisse se développer.
Vous, quand vous parlez de réhabilitation, là, vous raisonnez à quelle échelle? Le périmètre seulement ou plus largement la métropole?
De restauration de quoi?
Du centre-ville de Marseille, de tous ces quartiers, de tous ces projets dont vous avez fait état.
Il y a plusieurs échelles, de toute façon, globalement. L'échelle de la métropole, c'est pour les équipements structurants. Ensuite, nous avons l'échelle de la ville, mais bien sûr en lien avec les délégations qui sont transférées à la métropole. Et je comprends que le citoyen lambda ait du mal à trouver ses repères parce qu'aujourd'hui tout est beaucoup plus compliqué dans le bouleversement institutionnel. Mais les efforts, ils doivent être collectifs sur le centre-ville. On a aussi Martine Vassal en tant que présidente du conseil du département qui va faire des efforts importants sur le centre-ville parce que c'est une de ses volontés. On veut aussi qu'avec la région on puisse avoir notamment un lycée international sur Euromède 1 pour faire en sorte que cette ville elle puisse offrir un maximum de possibilités de développement à sa jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce soit une ville apprenante.
Michel,
deux dossiers concrets. Le casino dans la ville méditerranée, c'était pour faire une blague. C'est un dossier, c'est réaliste de mettre, alors, même techniquement, hein, de mettre un casino.
La volonté d'avoir un casino à Marseille est très forte.
Voilà, ça on l'a compris.
Après, il va falloir examiner si techniquement ça peut rentrer dans la ville méditerranée.
Mais vous, à titre personnel, vous êtes d'accord pour qu'il y ait un casino ?
Un casino, oui, tout à fait.
Vous êtes d'accord ?
Bien sûr, bien sûr.
Et à cet endroit-là ?
Ça continue à faire partie de l'attractivité de Marseille. À cet endroit-là, sur Euromède 1, c'est pas la présidente d'Euromède qui va vous dire qu'elle n'en veut pas. À cet endroit-là, Villa Méditerranée, il faut voir si techniquement ça rentre et si l'opérateur a tous les atouts pour faire en sorte que ce casino réussisse. Parce que l'objectif, c'est de mettre un casino, mais de faire en sorte que ça réussisse et que ça participe de l'attractivité de Marseille.
Ceux qui vous disent que finalement, avec les quartiers nord, qui sont des lieux où il y a beaucoup de trafic de drogue, que ça va servir de machine à laver, etc.
Je crois qu'il ne faut vraiment pas tout mélanger. Ah et bon. On a tendance à toujours tout mélanger.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, un casino, il ne fonctionne pas que sur l'activité casino. Un casino, il est souvent adossé à un hôtel, à un restaurant, enfin, à des animations autres que celles...
Ce ne sont jamais des mécènes, les patrons de casino. Ben s'ils viennent, c'est parce que leur machine à sous vont beaucoup tourner, beaucoup marcher. C'est pour ça qu'ils investissent.
Mais vous savez que le retour de machine à sous, le retour à l'État est de 85%. Donc, ils ont quand même des revenus qui sont annexes aux machines à sous. Voilà. Et moi, qu'un entrepreneur ait envie de venir faire du bénéfice à Marseille, le bénéfice, il profitera à tous. Voilà. Il n'y a rien qui me choque.
Michel ?
Autre dossier, c'est bientôt la Fiesta des Suds.
Hein,
les Docks des Suds, donc sur le périmètre d'Euromède 2.
Tout à fait.
Justement, il y a eu une espèce de mariage comme ça, de dynamique entre Euromède 1 et la culture, avec le MUCEM. Mm-hmm. Est-ce que là, vous dites, et c'est ce qui est programmé, effectivement, les Docks des Suds doivent déménager. Est-ce que vous dites, tant pis, tant mieux ? Est-ce qu'on peut maintenir ces quelque part ailleurs, dans le périmètre d'Euromède 2 ? Est-ce qu'il faut ? Est-ce que vous le souhaitez ? Ou est-ce que il n'y a pas la place ?
Mais je le souhaite. Les Docks des Suds et les festivals qu'ils réalisent sont des festivals de renommée nationale et internationale. Aujourd'hui, c'est une vraie marque. Il est hors de question que Marseille se prive de ces festivals. À côté des festivals, ils ont une activité qui est accueil de congressistes, location pour des manifestations. Voilà, il faut dissocier les deux. Les festivals, aujourd'hui, avec le développement de Euroméditerranée 1, ne sont pas compatibles avec les logements qui vont arriver dans le parc habité. Deuxièmement, pour toute l'activité annexe, congrès, petits événements, on peut voir comment ça peut cohabiter. Aujourd'hui, moi, je suis en dialogue permanent avec les Docks des Suds, avec son directeur, avec son président. Je les ai encore vus la semaine dernière. L'objectif, c'est de trouver une solution qui leur convienne et qui nous convienne. Moi, il est hors de question que l'activité Docks des Suds quitte Marseille.
D'accord. Par contre, le festival n'aura plus lieu dans le périmètre d'Euromède.
Par contre, il faut trouver... c'est difficilement compatible. Aujourd'hui, il y a des plaintes de tous les riverains et tout n'est pas encore construit.
On peut l'envisager dans les quartiers noirs, par exemple ?
Bien sûr. En plus, les Docks, eux, ils ont eu une attitude de d'avant-gardiste dans des quartiers difficiles. Pourquoi ?
Ça, c'était avant. Parce que je suis pas sûr qu'ils acceptent les quartiers.
Vous parliez de la gentrification. Tout le monde se gentrifie, monsieur, visiblement. Donc, ils peuvent être des défricheurs urbains sur XXL, sur Euromède 2. Pourquoi pas ? Tout ça peut s'envisager. Aujourd'hui, la Fiesta est une entreprise culturelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait la démonstration qu'ils vivent de moins en moins de subventions, mais de plus en plus de recettes. Et ça, c'est très bien. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est les accompagner dans leur démarche et faire en sorte de leur trouver un lieu pour qu'ils puissent s'exprimer.
Ça sera la dernière année
et compatible.
À l'endroit où ils sont. Ça sera la dernière Fiesta, on peut dire, à l'endroit où ils sont.
La dernière Fiesta, j'en sais rien. Aujourd'hui, on se voit quasiment tous les mois. On va réfléchir à comment ça peut s'organiser. Je pense qu'ils peuvent améliorer aussi leur système, faire en sorte que ce soit des activités qui sortent plutôt côté mer et qui gênent pas sur l'arrière, là où il y a des habitations. Enfin, on est prêt à tout regarder. Voilà. À tout regarder.
L'émission avance, il faut quand même parler de la dimension métropolitaine. Vous défendez, vous êtes partisan de cette dimension métropolitaine depuis longtemps. Est-ce que c'est un atout? Alors, vous disiez avant d'être en responsabilité à Euromed que, à terme, et assez vite, la métropole devait remplacer le département des Bouches-du-Rhône. Il y avait
Il y a une logique à éviter ce millefeuille permanent. Et d'ailleurs, la présidente du conseil départemental réfléchit à comment...
À démissionner.
Mais pas du tout. Mais pourquoi?
À fusionner avec l'agglo.
Je veux dire, à Lyon, ça s'est fait. Pourquoi ça se ferait pas à Marseille? Voilà, je veux dire,
donc Martine Vassal,
on n'a pas une fatalité à être moins bon qu'ailleurs.
Vous nous dites aujourd'hui que Martine Vassal pense sincèrement à fusionner la métropole avec le conseil général.
Sur le périmètre de la métropole aujourd'hui, oui.
D'accord.
Et pourquoi pas?
80% du territoire du 13.
Alors, nous, notre difficulté quand même, c'est qu'on se prend tout d'un bloc. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les 92 communes qui se parlent pas, les 6 EPCI qui travaillent jamais ensemble, doivent fusionner, doivent travailler ensemble, tout doit bien se passer. Alors que quand même, sur les autres communautés urbaines, ils ont une expérience de plusieurs dizaines d'années de travail en commun. Alors, nous, tout est à marche forcée. Et pourquoi ne pas envisager, si Martine Vassal en est d'accord, de réfléchir à comment on peut se diriger vers une collectivité unique?
Alors en même temps, à marche forcée, mais toutes les anciennes EPCI, hein, les territoires, ont été maintenues. La métropole se met en place doucement. L'intégration se fait progressivement. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui êtes partisane d'avancer sur ce dossier, qu'il faudra aller plus loin? Alors par exemple, une des questions qui se pose, 2020... Élection au suffrage direct des conseillers métropolitains, c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Je pense que c'est pas le sujet.
Mauvaise idée?
Non, je pense sincèrement.
Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'intégration?
Vous venez
est-ce qu'il
de faut dire que les gens ne comprennent rien au millefeuille et
mais
vous êtes
sûr.
Contre le suffrage direct?
Non,
ça
je
serait
pense
leur,
que c'est
leur seule manière de.
Mais est-ce que je vous ai dit que j'étais contre?
Vous dites que
je
c'est
pense
pas la
que
question.
C'est pas... Non, aujourd'hui, la préoccupation, c'est comment on peut améliorer le système de fonctionnement de ce millefeuille-là, où personne ne s'y reconnaît et ne comprend le mode de fonctionnement, si ce n'est nous qui sommes vraiment dedans à 100%. Je peux comprendre qu'il y ait des disparités entre une commune qui a 1000 habitants et la ville de Marseille, qui et notamment l'ex-communauté urbaine, qui fonctionne comme une métropole intégrée. Donc comment on peut réduire ces distorsions et gagner le rapport de confiance? Parce qu'aujourd'hui, le rapport de confiance, il se construit doucement, mais voilà, il faut qu'on arrive à le renforcer. Alors, moi, après le suffrage universel, pas le suffrage universel, de toute façon, à la base, c'est le suffrage universel qui nous amène tous à être élus. Voilà.
Ouais, enfin, pas forcément la métropole. Enfin, je veux dire, si les gens ont envie de voter pour ceux qui siègent là, ça me paraît plutôt logique, non?
Ben, ils votent à travers un bulletin de vote où les gens sont fléchés.
Michel.
Ben, on tombe pas du... On n'est pas imposé suivant un diktat, quand même. Je veux dire, ça passe par les urnes.
Mmh. Allez, un dossier concret métropolitain, là. Il y a une piscine qui vient de sortir du sol.
Oui.
Enfin, il y a de l'eau dedans.
C'est mieux pour une piscine.
Oui, vaut mieux, hein, voilà. C'est la piscine de Venelle, le parc aquatique Saint-Victor. Alors là, c'est 22 agents métropolitains, 28 millions d'euros investis.
C'est quelque chose d'enclenché avant la métropole,
oui,
quand même, je tiens à préciser.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, la métropole telle qu'elle se construit pourrait permettre d'éviter de répartir? Par exemple, on sait qu'il y a un problème d'équipement
exactement...
à Marseille au niveau des piscines. Il y a un projet de piscine d'ailleurs. Vous allez nous en parler peut-être sur Euromed 2.
Oui.
Est-ce que la métropole est aujourd'hui organisée de telle façon qu'on puisse permettre à Marseille de s'équiper, de rattraper son retard?
Non, mais c'est exactement la raison pour laquelle je suis métropolitaine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, chaque mairie raisonne à l'aune de son petit périmètre. On n'a plus d'argent public. Je veux dire, il faut que chacun se le mette en tête. Donc il faut vraiment rationaliser cet argent public. Pourquoi un gymnase ne servirait pas à deux communes plutôt que chacun son gymnase? La piscine qui doit être métropolitaine doit servir à tous les métropolitains et ainsi de suite. C'est-à-dire que comment on peut rationaliser les équipements publics. C'est vraiment l'objectif de la métropole.
On y est là parce qu'aujourd'hui, c'est la même majorité politique qui est à la tête de toutes les...
La métropole, elle a 6 mois d'existence. Oui. Lui demandez pas non plus de faire des miracles.
Donc, concrètement,
l'objectif numéro un, c'est développer les transports en commun. Voilà, c'est vraiment l'objectif numéro un. Et au mois de novembre, Jean-Pierre Sérus, qui est vice-président de la métropole, déclinera son agenda de la mobilité. Mmh. Avec un plan de financement qui adossé à cet agenda. Comment on peut arriver à faire des équipements structurants qui servent l'ensemble du territoire?
Voilà.
Ça, c'est l'objectif numéro 1.
Euromed, accélérateur de métropole, ça veut dire quoi concrètement? En quoi Euromed est un accélérateur de métropole?
Déjà, en termes de je développe une ville qui peut être en lien, enfin qui peut, dans le pourtour méditerranéen, peser, dans l'Interland aussi, et le fait d'avoir un centre d'affaires, d'avoir des équipements culturels à rayonnement métropolitain, comme le MUCEM, comme le FRAC, à développer aussi une cité apprenante avec le lycée international, j'espère qu'on va y arriver, avec des CFA, tout ça, ça a un rayonnement métropolitain.
Mais la métropole, elle sera opérationnelle à 100% à quel horizon à peu près? On parle de 2020. À partir de ce moment-là qu'on commencera parce que pour l'instant, vous êtes à 100% Euromed, mais les autres, ils font plus de la politique que de la vraie gestion.
Justement, je veux dire, il faut qu'on arrive tous à se donner comme objectif d'être plus efficace et arrêter de faire de la politique au nombril de chacun ses petits projets ou chacun sa petite vision. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. C'était quoi la question?
La métropole accélérateur.
Non, mais ça, je vous ai répondu, évidemment.
Oui.
Oui, évidemment.
La métropole. Michel?
Succession de Jean-Claude Gaudin, désolé de vous ramener à de la politique.
Non, mais c'est vous nous ramener aux réalités aussi, réalité. C'est l'objectif.
Il y a beaucoup de jeunes quadras, quinquas, ambitieux, compétents, c'est à nos auditeurs d'en juger. Ça fait pas un peu trop? Est-ce qu'on ne voit pas émerger une ou deux têtes
Enfin, on en voit plutôt beaucoup.
Globalement.
Personne qui est vraiment adoubée, quoi.
Et oui, mais les successions de personnages comme Jean-Claude Gaudin ont toujours été compliquées. On peut regarder dans d'autres villes. On a quelqu'un qui s'est inscrit dans
À Paris, ça a très bien marché, non?
Oui, à Paris, ça a bien marché. On a quelqu'un qui s'est inscrit dans le temps et qui, je crois, a vraiment envie de créer une plus-value après lui du travail qu'il a effectué. Voilà. Et de faire en sorte qu'on ne soit pas tous à se disputer justement pour la succession. Alors, c'est pas simple, hein. Il y a beaucoup de têtes qui émergent.
Laure Agnès Carradec, on va parler par litote, on arrive à la fin
mais
de l'émission.
Il y a beaucoup de têtes qui émergent.
La sortie, par exemple, de Renaud Muselier dans un papier qui dit que finalement, Jean-Claude Gaudin ne souhaite pas d'héritier, il préférait Macron plutôt qu'un héritier parce qu'il veut s'inscrire dans l'histoire, etc. Est-ce qu'il a fondamentalement tort, Renaud Muselier? Alors qu'ils ont conquis cette ville ensemble il y a très longtemps, en 95.
Je pense que Renaud Muselier a déjà fait des sorties de la sorte. Hein. On n'est pas très surpris. Il a envie de re-rentrer dans le jeu politique et de se mettre dans la position d'un successeur potentiel. Voilà. Des successeurs potentiels, il y en a beaucoup. Je pense que c'est celui qui arrivera le plus à faire l'unanimité, la cohésion et le consensus. Et je pense que c'est pas forcément par des articles décapants qu'on arrivera à le faire. Et faire en sorte que, justement, cette cohésion demeure. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs élus à travailler vraiment sans souci d'égo. Voilà. Comment est-ce que ça peut continuer? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On va avoir... après, vous allez me dire, Sarkozy a dit qu'il allait revenir dessus. Le cumul des mandats. Si les parlementaires doivent démissionner de leur autre poste d'exécutif, sincèrement, il va y avoir de la place pour tout le monde. Et pour tous ceux qui ont envie de faire avancer ce territoire. Donc aujourd'hui, je pense que ça sera l'intelligence collective qui arrivera à faire en sorte que soit la succession est réussie, soit c'est un échec. Et à ce moment-là, toute la classe politique de mon âge et de ma famille politique ira à la pêche.
Il faut revenir sur le cumul des mandats pour vous, Laure Agnès Carradec. Il faut revenir sur le cumul des mandats ou c'est une bonne chose au contraire d'interdire le cumul des mandats?
Le cumul des mandats, il ne marche que pour les parlementaires, celui qui est prévu l'année prochaine.
Est-ce qu'il faut revenir là-dessus?
Moi, je pense qu'un parlementaire qui a un exécutif peut défendre son exécutif à Paris. Donc, je ne suis pas complètement tranchée sur le cumul. Je pense qu'il faut un vrai statut de l'élu. Je pense qu'il faut une vraie organisation qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire que, sincèrement, si vous êtes retraité ou fonctionnaire, vous pouvez faire de la politique ou richissime. Je ne pense pas que ça soit donné à tout le monde de pouvoir en faire.
Les émoluments des élus sont quand même pas misérables. Aujourd'hui, ils cumulent tous dans 3 ou 4 structures donc qui peuvent très bien ne pas être fonctionnaires et bien vivre de la politique locale.
Je dis que si vous voulez un chef d'entreprise, si vous voulez un salarié, il est obligé, en fonction des mandats et des responsabilités qu'il a, d'arrêter de travailler. Et aujourd'hui, quand vous arrêtez de travailler, vous le savez comme moi, vous n'avez pas de déroulé de carrière, on n'a pas de protection sociale, nous ne sommes pas rémunérés. Je ne vais pas dire que nous sommes des malheureux, mais du coup...
On peut connaître votre salaire, Laure Agnès
Karadec?
Oui,
bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Un adjoint au maire?
Non. Combien vous touchez sur l'ensemble de tous les mandats que vous avez?
Vous savez quand même.
Vous écrémez, je sais. Mais in fine, il vous reste combien?
Non, je n'écrème pas. Je dis c'est plafonné, mais je n'écrème pas. Au final, une fois qu'on a tout enlevé, il me reste 5000 euros. Voilà.
Net.
Oui, je pense net. Sachant que nous finançons nos campagnes et que nous donnons aux partis.
L'émission
voilà.
se
Mais pour
termine...
70 heures par semaine, auto-horaire, je ne pense pas que ce soit très, très, très rémunéré.
L'émission se termine. Une question, une femme pour succéder à Jean-Claude Gaudin, scénario possible?
Mais pourquoi pas?
Martine Vassal a créé son association des amis de Martine Vassal,
oui,
vous étiez?
Oui,
elle
tout
fait
à
partie
fait.
Des... Et vous? Est-ce que vous sauriez, est-ce que vous vous projetez comme ça?
Me projeter, non. Moi, je me régale dans ce que je fais et je me dis que s'il y a des opportunités à saisir, je les saisirai. Mais aujourd'hui, se projeter, personne n'a une visibilité très claire.
Laure Agnès Karadec, je vous remercie.
Merci.
Et on se retrouve le mois prochain. Bye.
Merci.